On va continuer l'étude qu'on a commencé les semaines antérieures, mais on fait toujours comme une continuité. C'est comme si chaque étude se complète en rajoutant d'autres parties, puis ça, on voit une vue d'ensemble sur une fois qu'on fait le survol de toutes ces choses-là. On continue sur les dons que Dieu veut utiliser à travers de nous. Dieu, il a donné des dons à chacun, puis il s'attend que tout le monde travaille dans son œuvre, peu importe l'âge. Si t'es capable de parler, t'es capable de faire des petites affaires, t'es capable de servir. Puis un des beaux dons que Dieu donne dans l'Église, c'est le don de service, d'être un serviteur, d'être une personne qui sert les autres, qui s'implique, qui fait les choses pour aider. Puis c'est ça qui est un peu le cœur. On est en train d'étudier sur le don de la miséricorde qu'on avait la semaine passée, puis c'est un peu encore une continuité de ce don-là qu'on va voir. Puis quand on parle du don de miséricorde, on voit ça dans Romains 12:8 qui nous dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On a vu la semaine passée que l'idée du mot miséricorde, c'est d'aider quelqu'un d'affligé ou quelqu'un qui cherche de l'aide. Puis quand tu es miséricordieux envers quelqu'un, tu as à cœur de vouloir aider. Tu as à cœur de vouloir rendre service. Tu veux aider, qu'il soit en train de mourir ou qu'il soit bien vivant, mais il a besoin d'un petit coup de main. Le fait que tu penses à lui, que tu aies compassion de la personne, tu as le goût d'y aider, tu veux y soulager son travail ou quoi que ce soit, c'est le don de miséricorde. C'est une personne miséricordieuse. Miséricordieux quand t'as à cœur d'aider. C'est ça qui est important à comprendre, que on peut tous vivre ce don-là. C'est pas tout le monde qui l'a toujours automatique sa main, là, être prêt à servir les autres. Mais une fois que t'es chrétien puis que t'as donné ta vie au Seigneur, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il te remplit de son amour. Puis tu commences à aimer ton prochain comme toi-même. Puis quand tu commences à aimer ton prochain comme toi-même, mais toi-même, quand tu t'occupes de toi-même, tu t'occupes de toi-même, tu prends soin de toi-même, on prend soin, on se lave, on s'occupe, on se donne à manger, on prend soin. Mais quand tu aimes ton prochain comme toi-même, mais tu vas être prêt à faire ces mêmes choses-là pour eux parce que tu les aimes, puis tu veux leur donner les mêmes soins que tu donnes à toi-même. Tu veux bénir les autres qui sont autour de toi. Puis quand tu commences à avoir ce cœur-là, à vouloir aimer ton prochain, puis servir ton prochain, tu veux pas, tu t'es rendu une personne miséricordieuse. Le don qu'on va voir ce soir, on va continuer un peu l'idée du don de miséricordieux. Mais on parlera pas du mot miséricorde. On va parler sur un mot qu'on connaît ça parfaitement, ce mot-là. Mais on va le développer pour comprendre la pensée de la Bible sur servir Dieu dans l'hospitalité. Là, vous allez me dire, ouais, mais à quoi que ça sert l'hospitalité? Pourquoi je devrais être une personne qui exerce l'hospitalité? Mais selon la Bible, le mot miséricordieux, c'est d'aider quelqu'un d'affligé qui a besoin d'aide. Mais selon le dictionnaire, le mot hospitalité, c'est l'action de recevoir et d'héberger chez soi, gratuitement, quelqu'un par charité, libéralité ou amitié, offrir l'hospitalité à quelqu'un. Fait qu'en veut pas, quand tu exerces l'hospitalité gratuitement, dans le but d'héberger quelqu'un ou de le recevoir pour venir manger chez vous, ou juste les moments de partage puis de jaser pour avoir du plaisir ensemble, c'est un acte de charité, de la libéralité, c'est un acte d'amitié. Veux pas, quand tu es une personne miséricordieuse qui veut aider les autres, c'est une grande et belle option à faire, d'ouvrir ta maison, puis d'offrir l'hospitalité aux frères et sœurs, puis même aux gens qui sont démunis, les gens qui ont besoin. Ça fait partie du plan de Dieu qu'on exerce l'hospitalité, qu'on invite des gens chez nous, puis qu'on les aide. D'ouvrir notre maison pour bénir les autres. On va voir qu'il y a plusieurs passages qui parlent de ça. La Bible parle dans plusieurs passages de l'hospitalité, puis elle nous donne aussi la façon de procéder, puis les avantages quand on est généreux de ce qu'on a pour pouvoir aider les autres. On voit dans la parole de Dieu que l'hospitalité, c'était pratiqué dans l'Église primitive. Quand je parle d'Église primitive, c'est l'Église, la première Église qui s'est formée après que Jésus soit mort et ressuscité. Les apôtres, les 12 apôtres, plus ceux qui étaient proches, ils étaient 120. Là, ils priaient, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est descendue dans la pièce. Puis là, ils se sont mis à parler en d'autres langues, puis les signes de Dieu sont manifestés assez fort que dehors, dans la maison, il y avait une fête à Jérusalem. Au bruit que ça a fait dans cette pièce-là, là, dans la maison, il y a 3000 personnes et plus qui s'est avancé au rôle, le perron de cette maison-là. Ça, il était au deuxième étage. Puis il a sorti sur le perron pour voir la foule qui était dehors, puis il a commencé à leur expliquer ce qui était en train de se passer. Il a parlé tout haut. Puis ça nous dit que cette journée-là, la puissance de Dieu a emmené 3000 personnes d'un coup sec à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Puis là, c'était la première église qui s'est formée, c'était à Jérusalem, puis les gens se réunissaient dans le temple des Juifs, qui était le temple pour les parce que les Juifs avaient le gros temple de Salomon qui était là, puis il y avait une partie qui était pour les sacrifices puis les choses qui se faisaient dans le temple, mais eux autres, ils se réunissaient quand même dans le temple, puis il y avait sûrement des locaux à part, puis qui pouvaient se réunir, des grandes foules qui pouvaient se rassembler, puis ils étaient 3000, ça n'a pas été long qu'ils sont montés à 5000. Puis la vie de l'Église primitive, c'est ça qui est l'Église primitive, la première Église après Jésus-Christ, on voit un passage dans Actes 2, 46, c'était quoi la dynamique qui se passait dans cette Église-là? C'est que les gens, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Premièrement, les gens, ils aimaient ça, être réunis ensemble, aller au temple, là, ça nous dit qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, puis ils louaient Dieu, puis ça nous dit, juste le passage avant, j'ai oublié de le mettre, ça nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain, puis dans les prières. Fait qu'ils aimaient être ensemble, ils aimaient fraterniser, manger ensemble, puis ils écoutaient la parole de Dieu qui était prêchée par les apôtres. Puis là, ça nous dit qu'ils trouvaient grâce devant Dieu, puis devant tout le peuple, puis le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Fait que c'était une Église en croissance, qu'il y avait beaucoup de personnes qui se rajoutaient, mais il y avait une vie ensemble, là, une communion fraternelle intense. Ils aimaient ça se rencontrer, ils aimaient ça se voir. Ça dit qu'ils étaient assidus au temple, puis ça nous dit aussi qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire que les premiers chrétiens aimaient se réunir dans des maisons, puis ils fraternisaient. Comme qu'on fait ce soir, on jase, on parle de la parole de Dieu, on loue le Seigneur, on est dans une maison, mais des réunions de maison, c'est pas d'hier que ça a commencé, ils n'avaient, voilà, 2000 ans. Puis là, ça existait dans ce temps-là, puis ils prenaient leur nourriture avec joie puis simplicité de cœur. Ils mangeaient ensemble. Ils pratiquaient l'hospitalité. C'est ça qui est le point. C'était pratiquer que les gens ouvraient leur maison pour que ça devienne des lieux de prière, des lieux de rencontre pour manger ensemble, des lieux de fraternité pour jaser, etc. Puis Dieu bénissait ce qui se passait là, puis il rajoutait des personnes qui joignaient à l'Église. Il y a des buts pour ça, l'hospitalité, et ça donne des choses de plus à nous, et à ceux qui l'exercent, puis ça donne des choses de plus à ceux qui reçoivent quand l'hospitalité est pratiquée. Premièrement, ce qu'on voit dans la parole de Dieu, lorsqu'on exerce l'hospitalité, on pourvoit aux besoins des saints. Ça veut dire, si on voit ça dans Romains 12, 13, ça dit « pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité ». Ça veut dire que des gens pauvres, il y en a toujours eu. Des gens qui ont de la misère à arriver financièrement. Puis qui ont besoin d'un coup de main de temps en temps, d'aller manger chez quelqu'un. Quand tu reçois des gens, quand tu es capable puis tu peux recevoir des gens à manger, bien tu les aides. Tu es en train de pourvoir aux pauvres. Tu es en train d'aider aux saints qui ont besoin d'aide. C'est sûr que tu peux inviter des riches, mais là, si tu invites des riches, Ça les aide parce que c'est un bon temps là, pour jaser. Mais ça nous dit, dans ce passage-là, pourvoyez aux besoins des saints. exercer l'hospitalité. Donc, il est en train de nous dire, quand vous le faites, cherchez premièrement à le faire pour ceux qui ont des besoins. Ceux qui n'ont de besoin, invitons-les chez nous, donnons-leur des repas, ouvrons notre maison pour accueillir ceux qui ont de besoin. Dieu veut nous donner comme une vision. Ça, je vous pose la question, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que ça prend un gros don pour pouvoir dire, ben ce soir, ça te tente d'inviter à souper avec nous autres? Tu sais, tu invites du monde à souper. Pardon? Hein?
Okay. Quelle bénédiction, puis on voit plein de passages. Le Seigneur, quand il a été chez Matthieu, qui a mangé là,
oui.
Quand il a dit Zachée, puis vite, bon, va-t'en
chez il y a plein de passages qui parlent d'hospitalité. Puis c'est ça qu'il faut apprendre, que ça fait partie du don de miséricorde de vouloir secourir les autres. Fait que si tu veux secourir, tu peux secourir du monde en les invitant chez vous. Ouais. Tu pourvois aux besoins des saints à ce moment-là.
Les saints aussi, dans ce temps-là, ils se parlaient de ville, quelqu'un
fallait qu'ils hébergent. Puis... Ouais. Mais ça, s'il y a des missionnaires qui passent. Mais les saints, c'est toute l'Église.
Il y avait aussi
les missionnaires, recevoir des missionnaires, des évangélistes. Quand on exerce ce ministère-là, qu'on se dit, OK, à cette heure-là, je vais me mettre à inviter des gens qui n'ont de besoin, je vais commencer à ouvrir ma maison pour pourvoir aux besoins des saints, Dieu peut permettre qu'on héberge des anges sans qu'on le sache. C'est arrivé dans l'Ancien Testament, où ce qu'Abraham, il y a des anges de Dieu envoyés par Dieu qui étaient comme en forme humaine, puis ils sont avancés auprès d'Abraham pour venir donner un message. Puis Abraham, quand il les a vus, il les a invités tout de suite à venir manger à sa tente. Lui, il avait une tente dans ce temps-là, c'était pas une maison. Puis il l'a invité, puis il a tué un veau gras ou un agneau ou quelque chose, puis il a offert à manger, puis il a préparé du pain, puis il a offert à manger aux gens. C'était naturel pour eux autres, on invite les personnes chez nous, puis on leur donne à manger, on les accueille. Puis quand, c'est arrivé à des occasions qui ont hébergé des anges. Sans le savoir. Mais lui, il l'a su parce que c'était le message de Dieu qui a été donné à ce moment-là. Mais c'est pour dire que ça peut nous arriver à nous aussi si on invite des gens qui sont nécessiteux, qui sont dans le besoin, on les connaît pas, puis c'est Dieu qui les a mis sur notre passage pour qu'on les invite parce que Dieu voulait comme nous mettre à l'épreuve. Ça, on voit ça dans Hébreux chapitre 13, le verset 2. Ça nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Puis c'est sûr que Dieu va nous bénir si on est dans ce move-là, à faire cette activité-là d'hospitalité envers les pauvres. D'autres choses que la Bible nous dit sur l'hospitalité, elle dit, lorsque nous exerçons l'hospitalité, c'est un lieu de bénédiction, l'hospitalité. On y est ensemble, c'est pour s'édifier les uns les autres, c'est pour se fortifier, c'est pour s'encourager, c'est pour s'aider, on s'offre à manger, puis on partage. C'est un lieu de bénédiction, un bon temps de communion fraternelle. Mais on doit prendre garde à quelque chose que la Bible nous met en garde. Dans 1 Pierre 4:9, ça nous dit « Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Pourquoi sans murmure? Pourquoi que c'est dit sans murmure lorsqu'il nous parle d'exercer l'hospitalité? Il y a deux manières que je comprends au niveau de l'avertissement de ne pas murmurer. Premièrement, c'est ceux qui font les choses du reculon. Là, ils invitent du monde, mais ça ne leur tente pas d'inviter du monde. Là, ils critiquent avant, puis ils critiquent après. Puis après ça, ils entendent des affaires dans ce qu'ils ont entendu entre eux autres, puis ils vont continuer à critiquer après. Les murmures, chialer, puis critiquer. Puis l'autre option qu'on peut se mettre à murmurer, c'est pendant qu'on est ensemble, puis là, de discuter sur des choses qui fait qu'on murmure ses autres. Ça vient de briser la bénédiction. Dieu veut qu'on exerce l'hospitalité les uns aux autres. Il nous motive à plusieurs passages de se recevoir mais murmurez pas, ni avant, ni pendant, ni après. Parce que là, on perd la bénédiction. Dieu, s'il nous met en garde, c'est parce que ça peut peut-être arriver qu'on soit des gens qui murmurent. Lorsque nous exerçons l'hospitalité envers les croyants, savez-vous que c'est à Jésus qu'on le fait? Peu importe qui ce que t'invites chez vous. T'invites un chrétien, t'invites un enfant de Dieu, c'est Jésus que t'es en train d'inviter. Il y a un passage, il y en a plus d'une couple de passages qui en parlent, mais il y en a un, entre autres, qui est bon, c'est dans Matthieu 25, 35. Jésus dit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Ça veut dire que ça pouvait être un étranger, tu l'as recueilli dans ta maison, tu as donné à manger, tu as donné à boire. C'est comme si tu l'as fait à Jésus. C'est encourageant quand tu entends ça, ça te donne le goût de le faire.
Merci Seigneur.
Oui, parce que on aimerait ça, on aurait aimé ça, je suis sûr, d'être dans le temps de Jésus, puis pouvoir recevoir Jésus dans notre maison. Ça aurait été une bénédiction que Jésus rentre. Comme Jachée, dans l'histoire de Jachée, il était content, il a même monté d'un arbre pour être sûr que Jésus le voit quand il passe, puis il a crié après Jésus, puis il dit « Viens chez nous ». Puis là, Jésus, il était chez eux, puis Jachée était content. Puis nous autres, on sera contents que Jésus rentre chez nous. Mais là, Jésus est en train de nous dire, chaque fois que tu rencontres un étranger, puis tu le fais venir chez vous, c'est comme si tu me l'as fait à moi. Fait qu'il faut ouvrir notre esprit et à devenir généreux de ce qu'on a. Un des critères, même dans la Bible, hein, c'est écrit qu'un des critères pour être un pasteur, faut que tu sois capable d'exercer l'hospitalité. C'est insignifiant, là, mais c'est important pour Dieu. Dans 1 Timothée 3:2, ça nous dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Ça le dit qu'il faut que l'évêque soit hospitalier. Il y a un autre passage dans Tite qui parle aussi de l'évêque. Puis là, c'est la même chose qui est écrit. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré. Mais être hospitalier, c'est une caractéristique qui est nécessaire pour que quelqu'un soit reconnu comme étant quelqu'un d'appelé pour être dans le ministère. Même, on voit un autre passage d'une femme biblique, là, j'en ai parlé un peu la semaine passée, qu'il fallait qu'elle ait pratiqué toutes sortes de bonnes œuvres. La semaine passée, il fallait que ce soit une femme qui ait été miséricordieuse. Mais ça dit aussi dans 1 Timothée 5:10, en parlant de la femme d'une femme biblique, là, elle doit être hospitalière, faut qu'elle ait exercé l'hospitalité. C'est un des critères d'une femme de Dieu, une femme mature dans le Seigneur. Puis on voit aussi que, ça, comme on a parlé tantôt, qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible où ce qu'on voit que les gens ont pratiqué l'hospitalité, comme par exemple Lydie, qui est une marchande de pourpre, elle vendait des choses d'une marchande. Puis lorsqu'elle s'est convertie, elle a ouvert sa maison pour accueillir Paul et son équipe. Puis on voit ça dans Actes 16 au verset 14. Je peux vous le lire rapidement, que une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, est une femme craignant Dieu, puis elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, puis lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Fait qu'elle a ouvert sa maison, puis elle a pressé les autres, elle a dit, venez vivre chez nous pendant un bout, puis vous pourriez faire de l'œuvre d'évangélisation à partir de chez nous, mais elle a insisté pour que les gens aillent chez eux. Puis c'est bénissant. Il y a aussi plusieurs passages de la Bible qui nous parlent qu'il y a des chrétiens qui ont ouvert leur maison pour que ça devienne une église. Dans Romains 16, 5, ça nous dit un exemple de ça. « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » On voit ça aussi dans 1 Corinthiens 16, 19. C'est dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Il y a plus que deux passages, j'en ai lu deux bien rapidement, mais plus que deux passages qui parlent de l'église qui est dans leur maison. C'est que des chrétiens qui ont ouvert leur maison pour faire des rassemblements de prières, de louanges et d'études de la parole de Dieu. Comme qu'on fait ici, on pourrait dire « Saluez Daniel et Lynn qui ont, et l'église qui est dans sa maison. » Une église, c'est pas une bâtisse. La bâtisse, on appelle toujours la bâtisse là, une église, mais le vrai sens du mot « église », c'est une assemblée de ceux qui sont sortis du monde pour former l'église de Dieu. C'est une assemblée de personnes, l'Église. C'est pas la bâtisse, c'est l'assemblée des croyants qui forment l'Église, le corps de Christ. Fait que nous avons présentement, depuis des années, une Église dans notre maison. On exerce l'hospitalité. Ça fait partie du don de miséricorde. Vouloir aider, de vouloir secourir, de vouloir offrir un bon temps à d'autres pour pouvoir se nourrir spirituellement. C'est bénissant. Puis il y en a qui c'était plus que ça, parce que j'en connais des gens qui ont bâti une rallonge après leur maison, puis qui ont fait une vraie petite église dans leur maison, comme si un garage serait bâti après la maison, puis qu'on ferait un petit lieu de rencontre pour même le dimanche. C'est juste pour dire que ça fait partie de l'hospitalité. Puis, un dernier passage sur ce sujet-là. Jésus nous dit, c'est Jésus qui parle, il nous dit d'inviter les gens qui peuvent pas nous le remettre. Parce que si on invite des gens qui peuvent nous le remettre et qui nous invitent à leur tour, on a comme déjà notre récompense. Mais si tu le fais du monde qui sont pauvres, du monde qui sont pas à l'aise, qui te le remettront pas, c'est Jésus qui va nous le remettre. Regardez bien comment est-ce que Jésus dit ça, dans Luc 14, le verset 12. Puis là, Jésus avait été invité à quelque part, puis là, il dit à celui qui l'avait invité, il dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Dieu, à la résurrection, il va nous remettre. Chaque fois qu'on a accueilli des gens qui ne pouvaient pas nous le remettre, ça fait partie des bénédictions, des richesses qu'on s'est accumulées, qu'on va recevoir, mais qu'on arrive l'autre bord. C'est comme si, à chaque fois que tu le fais, tu es en train d'investir pour ton fonds de pension éternel. C'est ça. C'est 100% ça. C'est parce qu'on l'utilise pas, ce sens-là. Mais on est en train de se ramasser des fruits pour la vie éternelle. On est en train de ramasser pour notre fonds de pension éternel. Plus qu'on l'exercera tous les jours, imaginez la quantité de bénédictions. Il y en a des personnes chrétiennes que je connais pas intimement, mais je les ai vues. C'était des gens qui passaient à la télévision parce qu'ils ont été bénis par les anges de la rénovation. C'était des familles chrétiennes qui donnaient de la nourriture à des dizaines puis des dizaines de personnes qui venaient manger à tous les jours chez eux, puis étaient extrêmement pauvres, puis toute sa paye était pour investir, pour nourrir ce monde-là. Puis les anges de la rénovation, c'est comme une bénédiction qu'ils ont eue. Ils ont pu avoir un bâtiment en neuf avec un grand accès pour pouvoir offrir à manger, tout bien installé pour pouvoir offrir à manger aux pauvres. Mais Dieu l'a béni, cette personne-là. Il y en a d'autres comme ça. Ça, c'était un exemple, mais je donne ça comme exemple. Elle, cette personne-là, elle va être extrêmement riche l'autre bord. Parce que Dieu va y remettre chaque fois qu'elle l'a fait, puis que les gens n'ont pas été capables d'y remettre.
Mais étais-tu chrétienne?
Oui. Dans une des émissions, elle était chrétienne. Il y en a eu. Oui, il y en a eu une couple. Puis un autre verset que Jésus dit, Chaque fois que tu donnes un verre d'eau à l'un des plus petits de mes frères, il dit à moi que vous l'avez fait. Puis on ne perdra pas notre récompense. Pourquoi qu'il nous dit ça? Il veut nous encourager, le Seigneur, à ce qu'on soit généreux de ce qu'on a. Même un verre d'eau, une assiette de nourriture, à quelqu'un qui ne peut pas te le remettre, c'est comme si tu l'as fait à Jésus, puis Jésus va nous le remettre. Fait qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu, mais c'est une bonne manière de commencer à développer la miséricorde, puis commencer à penser à secourir ceux qui nous entourent. Prions.
Le plus bel exemple pour Daniel là-dessus, c'est le Seigneur qui l'a donné. Quand le Samaritain il a ramassé l'homme qui avait été battu, loué de coups, puis que les deux autres, le Pharisien, puis je pense que c'est un Lévite, Anthony, qui avait passé, eux autres s'en étaient pas occupés. Et lui s'en a occupé, il a pris soin de lui, puis il a même payé l'hôtelier.
Oui. Fait qu'il a secouru, il a exercé la miséricorde envers lui. Il a eu pitié. Mais Dieu nous appelle, nous donne ces exemples-là parce qu'il veut qu'on développe ça. C'est pas naturel dans l'humain d'être comme ça, mais avec l'amour de Dieu, il faut arriver à cela. Prions. Père Seigneur, c'est en nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie parce que on veut te remercier, Seigneur, pour ces beaux versets-là qu'on voit dans ta parole. C'est édifiant, c'est fortifiant, puis ça nous donne une vision de ce qu'on peut faire pour bénir les gens qui nous entourent. Que ce soit par de l'eau, de la nourriture ou d'accueillir pour héberger. Merci de les opportunités que tu vas nous donner, Seigneur, puis qu'on ne se leur fera pas remettre. Ça va nous être remis à la résurrection. Puis je te remercie, Seigneur, de ces belles paroles que tu nous as données ce soir. Grave-les dans notre cœur pour qu'on les oublie pas, mais qu'on puisse les mettre en pratique. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.